inserimento alle spalle della difesa del Milan.
L'avant-match avec Jeannal Bouzrara.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'avant-match. Nous sommes ensemble pendant pratiquement une heure. Un menu des plus riches nous attend ce soir avec tout d'abord cette finale de la Supercoupe d'Afrique qui oppose en ce moment même le Raja de Casablanca, le vainqueur de la Coupe de la CAF, au lauréat de la Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis. On joue pratiquement depuis 6 minutes sur la pelouse du stade d'Al Rarafa. Le score est toujours 2-0 à 0. On ira un petit peu partout en Europe ce soir avec en Espagne à 10 matchs du terme le leader Barcelone qui accueille l'Espagnol pour un bouillon derby catalan qui lance la dernière ligne droite pour le club Blaugrana et qui pourra compter sur les services de ses deux vedettes Lionel Messi et aussi, bien sûr, Suarez, l'attaquant uruguayen, revenu de blessure. En Angleterre, 3 ans de plus d'histoire entre Manchester United et son ancien remplaçant de luxe, Super Sub, devenu entraîneur épatant. Ole Gunnar Solskjaer va prolonger donc son contrat pour 3 saisons. Il l'a fait même hier. En Italie, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, confirme que Cristiano Ronaldo, blessé à la cuisse, pourrait manquer le quart de finale aller de la Ligue des Champions de son équipe face à l'Ajax Amsterdam le 10 avril. En France, cette fois, le PSG n'est pas là. Strasbourg et Guingamp, bourreau du quintuple tenant du titre, s'affrontent en finale de Coupe de la Ligue samedi. Et puis en Allemagne, le duel à distance qui se poursuit entre l'actuel leader, le Bayern de Munich, et son dauphin, le dauphin bien sûr, le Borussia Dortmund. Bien sûr, on évoquera de tout ça ce soir avec nos consultants. Et puis on suivra avec vous aussi l'évolution du score dans cette finale de Supercoupe d'Afrique entre l'Espérance de Tunis et le Raja de Casablanca. J'accueille tout d'abord la Liga espagnole et son ambassadeur chez nous, un certain Fred Hermel. Salut Fred.
Bonsoir Jeannal, bonsoir à tous.
Avec nous la Bundesliga aussi, représentée par David Lortolari. Guten Tag David.
Bonsoir Jeannal et bonsoir à tous, salut Fred.
On dit pas comme ça ?
Salut David.
Si, 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 à cette heure-là, c'est tout à fait valable, Jeannal, c'est parfait.
C'est parfait.
Oui, parce que ça dépend des heures. Ça dépend des heures. Bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, c'est un peu différent.
Mais bon, on va rester sur la bonne soirée. Donc, je vais commencer par Fred. Fred, d'abord la Liga, avant de parler, parce que dans les médias espagnols, on ne parle que de ça en ce moment. C'est comme si la Liga était terminée, qu'on savait tout, que la Ligue des Champions, ça y était décerné. Là, le seul sujet de discussion en Espagne, c'est le mercato d'été. Avec à 3 mois donc du coup d'envoi de ce mercato, les clubs espagnols ont déjà ouvert les hostilités avec la recrue Frankie de Jong à Barcelone, le départ de l'Atlético Madrid du soldat Lucas Hernandez, bien sûr Lucas Hernandez qui devient le défenseur le plus cher de l'histoire. On aura l'occasion d'en parler aussi avec David. Et puis le trésor de guerre du Real Madrid de Zinedine Zidane, place aux grandes manœuvres et au jeu des rumeurs, Fred.
Ah oui, ben on parle que de ça, vraiment. Ces derniers jours, en plus, comme la sélection espagnole n'intéresse pas beaucoup, il n'en avait que pour les transferts. Même pas les transferts, les rumeurs, parce que c'est vrai qu'on a eu là cette confirmation du départ de Lucas Hernandez, mais pour le reste, on en est que sur des rumeurs. Alors si tu veux, on peut commencer par la seule chose qui est vraie, qui est le départ de Lucas. 80 millions d'euros, sincèrement, je vous dis, c'est pas cher. Vu le marché actuel, vu ce que va devenir l'ami Lucas Hernandez, c'est-à-dire d'ici à 2 ans, le meilleur défenseur central du monde, ce gars-là a toutes les qualités. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter ces derniers temps avec Lucas. C'est une question d'argent, certes, mais pas que. Le Bayern lui offre un salaire qui va être proche des 9 millions nets. L'Atlético ne pouvait pas trop dépasser les 5 millions, peut-être s'approcher des 6 millions. Mais au-delà de ça, Et au téléphone, Lucas me l'avait expliqué de cette manière. Il me dit, tu sais, quand t'as le grand Bayern qui te fait un, qui te déroule le tapis rouge, qui te dit, tu vas être le leader de la défense, l'équipe, les lignes arrières vont être reconstruites autour de toi. Il me dit, c'est difficile de ne pas craquer. Et moi, je comprends qu'après toutes ces années, commencer tout petit à l'Atlético, après avoir gravi les échelons pour arriver à devenir l'un des joueurs essentiels de cette équipe, bah je comprends que ce jeune, parce qu'il est encore très jeune, défenseur, qui joue comme latéral, mais qui est surtout un défenseur central, ait envie de tester une aventure dans un club immense. Avec tout le respect vraiment qu'on peut avoir pour l'Atlético, le Bayern, c'est au-dessus, c'est une strate au-dessus, c'est un club légendaire. Et on voit, voilà, c'est le Bayern, c'est la classe, c'est d'immenses défenseurs. Voilà, et on peut comprendre que Lucas ait envie de cette aventure. Donc, on peut lui souhaiter qu'une très très belle chance dans son nouveau club et dans sa nouvelle aventure.
Il arrive blessé, bien sûr, au Bayern de Munich. Et même l'entraîneur du Bayern de Munich a affirmé tout à l'heure que Lucas Hernandez va même manquer les préparatifs du Bayern de Munich à la nouvelle saison. Comment on a accueilli cette arrivée de Lucas Hernandez pour ce montant record, 80 millions d'euros, bien sûr, l'équipe du Bayern de Munich qui est en train, elle aussi, en période peut-être de reconstruction et surtout au niveau de la défense qui a beaucoup peiné cette saison, notamment l'arrivée de Pavard, puis maintenant un autre champion du monde, Lucas Hernandez, David.
Alors les bouleversements commencent, c'est vrai, au Bayern. Hein, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été présentée à l'instant par Fred Hermel. C'est un vrai tremblement de terre à l'échelle du football allemand parce que, bien sûr, le record précédent dans les transferts venus de l'étranger, c'était Corentin Tolisso de Lyon, quelque chose comme 41,5 millions d'euros. C'était le record de tout ce championnat. Alors bien sûr, le Bayern est celui qui a une échelle différente. Il a une échelle européenne et mondiale, ce que les autres clubs allemands peinent à avoir en ce moment, que ce soit Dortmund, Schalke, Wolfsburg, Gladbach, ou les autres, et du coup on entre dans une nouvelle dimension, et c'est pas un coup ponctuel pour le Bayern, puisque le président Hoeneß a bien affirmé que le tiroir caisse était ouvert et qu'on voulait une reconstruction profonde. Et ça fait déjà, rien que ce fait là, cette actualité là, ce factuel là, c'est déjà un événement. Et en plus de ça, bien sûr, ça va opérer beaucoup de... Je parlais de tremblement de terre à l'instant, il va y avoir une vraie tectonique des plaques parce que des joueurs aussi essentiels dans ces 10 dernières années au Bayern que Jérôme Boateng, que Mats Hummels, peut-être aussi que David Alaba, même si pour celui-ci c'est moins évident, mais pour les deux précédemment cités, ça pose beaucoup de questions. Boateng est déjà sur le départ, et puis Mats Hummels va se demander aussi si pour les 2-3 prochaines saisons, il pourrait avoir sa place... pas assuré, mais de façon assez paisible. La question va vraiment se poser parce que Lucas Hernandez, bien sûr, va être avant tout, et Fred le disait et il a raison, un renfort pour la défense centrale. Et puis il y a aussi le jeune Pavard qui arrive de Stuttgart, qui arrive aussi en défense. Donc cette reconstruction s'engage et le Bayern va continuer maintenant l'offensive vers des joueurs offensifs, justement, peut-être prévoir quelques recrues nouvelles aussi dans ce domaine. Et là, on sait qu'il va falloir dépenser aussi de l'argent. Il y a un vrai budget qui est consacré à ça et on veut construire une équipe compétitive, jeune et compétitive, rapidement.
Voilà une équipe jeune et compétitive pour le Bayern de Munich. Le Bayern sorti lui aussi de la Ligue des Champions très tôt. Avant de te libérer d'autres sujets qui concernent un peu la Bundesliga, c'est bien sûr le championnat avec ce duel à distance qui se poursuit entre justement le Bayern de Munich et l'équipe du Borussia Dortmund, David.
Oui. Alors la tendance sportive semble être... Le vent semble pousser un petit peu plus le Bayern en ce moment. Il y a une différence de but qui est maintenant nettement favorable pour le Bayern dans ce duel, même si le nombre de points est égal. Le Bayern va jouer à Fribourg. Alors c'est toujours difficile dans ce petit stade un petit peu du sud-ouest, un peu de province, avec un public très fervent et des joueurs très accrocheurs. Fribourg fait des miracles en Bundesliga, se maintient assez aisément chaque saison, alors que pourtant ils ont le plus petit budget. Voilà le voyage du Bayern ce week-end. On peut imaginer une victoire pour Dortmund. Bon, le courant est un peu plus alternatif. Marco Reus avait des douleurs musculaires, par exemple, ces derniers jours. Il a joué un tout petit tout petit moment en sélection, parce qu'on a essayé de le préserver. Et le Dortmund se pose davantage de questions. Et voilà, il semblerait que la dynamique actuelle soit quand même un peu favorable au Bayern. Le duel va continuer de toute façon à être très intéressant jusqu'à la fin de saison. Et notamment dans quelques jours, on en reparlera dans les émissions futures, parce qu'il va y avoir une confrontation directe, bien sûr, entre les deux clubs. Le Bayern recevra Dortmund dans quelques jours aussi.
Merci beaucoup David, David Lortolari, notre consultant pour le football allemand. Je reviens vers toi mon cher Fred, et au sujet du mercato, je m'intéresse aussi à l'Atlético Madrid avant d'évoquer le cas du Real. Mais c'est une véritable révolution que va connaître surtout l'axe défensif de l'Atlético Madrid, qui passe pour être le point fort, l'ADN de cette équipe del Cholo Simeone. Le départ de Lucas Hernandez, mais pas que, puisque Godin est annoncé bien sûr à l'Inter de Milan, et que Juan Fran, lui non plus, ne veut pas prolonger son contrat. On n'a plus personne, et même on annonce même l'arrière latéral gauche remplaçant le Brésilien qui intéresse beaucoup le FC Barcelone, qui cherche un remplaçant à Alba.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On se pose aussi beaucoup de questions sur Philippe Luis. Alors, il reste un élément essentiel, un Uruguayen, c'est Jiménez. Il va falloir reconstruire autour de Jiménez, mais c'est pas suffisant, parce que c'est vrai que depuis des années, tu l'as bien précisé, cette charnière Godin-Jiménez avec Lucas Hernandez à gauche aussi, et puis Lucas Hernandez qui rendait bien service en défense centrale, bah, c'était vraiment la forteresse. Aujourd'hui, on se demande si c'est pas le moment aussi que Simeone fasse évoluer un petit peu sa philosophie et ne soit pas uniquement sur le défensif. Peut-être laisser libre cours à des joueurs comme Koke, comme Saoul, comme Lemar, de libérer leur talent et de pas toujours être dans l'option défensive. Donc, je suis un peu inquiet quand même pour cette équipe de l'Atlético. Il y a quand même des rumeurs autour de Griezmann.
Bah oui, hier, la presse catalane a même titré, le Mundo Deportivo a titré bombasso pour le Griezmann annoncé au SC Barcelone. Il avait donné son accord de principe au Barça et au président Bartomeu l'année dernière. Là, il accepte même de baisser son salaire pour rejoindre le club catalan. Là, ça va être si jamais ça se concrétise, en tout cas. Et on se pose maintenant la question, mon cher Fred, comment Griezmann va être accueilli au Wanda Metropolitano? Mais c'est un monstrueux chantier qui se présente, si jamais ça se confirme, pour l'Atlético Madrid et pour El Cholo. Ouais.
Bah alors, pour Griezmann, on va dire les choses clairement, son avocat m'a appelé l'autre jour. Voilà, je le dis, puisqu'il m'a autorisé à révéler cette conversation. Il m'a appelé pour m'expliquer les choses, en me disant que non, Griezmann ne s'était pas offert au Barça de nouveau, mais qu'il est vrai que Griezmann, aujourd'hui, Antoine, était un petit peu perturbé. Voilà, qu'il a pris une claque gigantesque avec cette élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de la Juve. On rappelle, victoire 2-0 des Colchoneros à l'aller et 3-0 après un match. C'est même pas un match mauvais, c'est un match qui n'a pas existé, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que c'était l'équipe... C'était le non-match absolu pour l'Atlético, le pire match depuis que Simeone est sur le banc de cette équipe des Matelassiers. Griezmann se pose des questions quant à son avenir, vraiment. Et on connaît tous le rapport intime, l'amitié presque fusionnelle qu'il a avec Diego Godin. Et donc Godin partant à l'Inter, comme tu l'as dit, Griezmann se pose beaucoup de questions.
C'est même le parrain de sa fille.
De sa fille, exactement. Et Griezmann était, il me semble, le témoin au mariage de Godin. Enfin, voilà, on est quand même dans des relations humaines qui dépassent le foot, mais qui comptent aussi. Moi, voilà, l'avocat m'a appelé. Nous avons un ami qui est président d'un club commun. Voilà, c'est la situation est compliquée pour Griezmann, donc on ne peut pas assurer aujourd'hui qu'Antoine Griezmann va rester à l'Atlético, même si, et pour que nos éditeurs comprennent bien, il y a deux tendances. Le père de Griezmann qui le pousse à quitter l'Atlético, la femme de Griezmann, Erika, qui préfère rester à Madrid. Voilà la situation, mais je pense qu'on aura quelques soubresauts d'ici à la fin de la saison.
Mais on dit que ce que femme veut, Dieu veut, donc on peut... S'avancer,
oui,
mon chef.
Ça a été le cas l'année dernière. Mais moi, j'aime beaucoup Antoine. Et avec lui, c'est un peu. Il est tellement gentil que parfois, il se laisse un petit peu trop influencer. Et avec Antoine, c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison.
D'accord.
Donc voilà, ça risque de bouger d'ici à la fin de la saison, mais ce serait une énorme déception pour les supporters de l'Atlético de voir le départ d'Antoine, alors que l'an dernier il les a fait souffrir en disant je pars pas, je reste pas. Et pour que ce soit de nouveau ce feuilleton d'ici à la fin de à la fin du mercato, ça embête un peu tout le monde, ça c'est clair.
Parlons du Real Madrid, le Real qui rêve de reconquête plombé par un hiver désastreux. Le club merengue donc a rappelé Zidane le 11 mars dernier. Et puis désormais la presse espagnole, Fred, ne parle que de ça. Mais quand on parle du Real Madrid, l'info, la vraie, on va la chercher où ? On va la chercher chez Fred Hermel. Alors que se passe-t-il du côté du Real Madrid ? On annonce une enveloppe de 500 millions d'euros disponible, en comptant notamment, bien sûr, sur les ventes de certains joueurs, dont un certain Gareth Bale, Fred.
Alors oui, j'ai beaucoup de respect pour mes confrères, bien entendu, mais moi je ne m'appuie que sur mes infos à moi. Voilà. Et ce sont celles que je vous transmets en direct sur l'antenne de Média. Zidane a demandé 5 ou 6 joueurs. Voilà, 5-6.
On peut dévoiler l'identité ?
Il a demandé 5-6 joueurs.
Et permets-moi de t'interrompre, mon cher Fred, le Raja de Casablanca qui vient tout juste d'ouvrir le score. Un superbe but signé Hafidi, 1-0 donc pour le Raja dans cette finale de la Supercoupe d'Afrique face à l'Espérance de Tunis. Je reviens donc à Madrid et au Real Madrid, le Real qui veut 5 à 6 joueurs.
Zidane a demandé à Florentino Pérez, Florentino Pérez a dit oui. Il y a des joueurs importants, Zidane notamment inquiet du milieu de terrain. Zidane et ses conseillers et les membres de son staff pensent que voilà, l'époque de Modric, Kroos, Casemiro, ce trio au milieu de terrain imbougeable ne va plus être le même la saison prochaine. Moi je vous donne des noms qui sont autant mes informations que mes sensations. Bien entendu, c'est un secret pour personne, Kylian Mbappé est la tête de gondole. Le Real Madrid, à commencer par Zidane, le président, les supporters et moi-même, correspondant de Média Madrid, c'est Mbappé, voilà, c'est évident. Le Real a besoin d'une star, d'une grande star, et la grande star qui fait rêver tout le monde, c'est Kylian Mbappé.
Ça s'annonce très très compliqué. On parle même, Fred, d'une revalorisation. On va même doubler pratiquement le salaire de Mbappé du côté du PSG. Il va toucher pratiquement le même salaire annuel que Lionel Messi. Et ça va être compliqué. Toi-même, tu le disais. Ouais. Signer fin août à minuit moins 5.
Voilà. Oui, il y a 5 mois. Alors, cette annonce du PSG... de vouloir doubler le salaire d'Mbappé montre bien que le PSG sent qu'Mbappé a envie de partir au Real de Zidane. Vous avez tous vu comme moi la une de France Football de cette semaine, ouais. Un article, un dossier auquel j'ai participé avec mon ami et collègue Thierry Marchand, plus beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé à ce dossier mais dont le nom n'apparaît pas. Nous parlons d'une proposition du Real Madrid de 280 millions d'euros et d'un Mbappé qui sait très bien que le train pour le Real, il faut le prendre cet été. Voilà, parce que Zidane est en train de bâtir une équipe et que Mbappé va être le numéro 1. Et au Real, il sera le numéro 1. Bale sera plus là, Cristiano est déjà parti, Benzema, on sait qu'il n'est pas, il n'ambitionne pas d'être numéro 1, puis Benzema, il a quand même déjà 31 ans. Donc voilà, Mbappé, c'est son avenir, il est là, il sait que c'est là maintenant. Mbappé a envie de venir.
Mbappé, on parle aussi d'Eden Hazard.
Alors Eden Hazard, ça c'est quasiment fait. Je peux même vous dire que du côté du Real Madrid, on aimerait pouvoir annoncer l'arrivée d'Hazard avant la fin de la saison. Voilà. Ça fait longtemps qu'il négocie, ça devrait se faire dans les prochaines semaines.
Zidane, il aime aussi un autre champion du monde, Kanté. N'Golo Kanté.
Alors Kanté n'a pas envie de partir de Chelsea. Et on sait que Chelsea déjà ne peut pas recruter à cause de la sanction de la FIFA. Donc faire partir Kanté et Hazard, ça me semble impossible. Donc je pense que c'est plutôt Hazard qui a un contrat qui se termine dans un an, qui est beaucoup plus facilement débauchable que Kanté qui vient de prolonger avec un salaire immense. Mais Pogba, vieux désir de Zinedine Zidane. Il y a 2 ans, quand Pogba avait quitté la Juve pour Manchester United, le Real avait demandé, s'était approché du joueur. Les relations exécrables entre Florentino Pérez, le président des Merengues, et Mino Raiola, l'agent du joueur français, n'ont pas aidé à ce que ça se fasse il y a deux ans. Mais là, voilà, les cartes sont rabattues. Zidane aime beaucoup Pogba, et je me suis laissé entendre dire qu'un échange Bale-Pogba, avec ou pas de l'argent en plus, dans un sens ou dans un autre, je ne sais pas, mais ça pourrait être une très belle solution. Manchester United et l'ami Aurélien de Vernoy pourra nous le confirmer dans la deuxième partie. Voilà, a besoin d'une nouvelle star offensive, alors que Pogba, lui, a vraiment envie de bosser avec Zizou et a envie de venir au Real. Donc là, ça pourrait être une opération finalement assez simple à monter s'il y a de l'envie et de la bonne volonté de chaque côté.
On est en train de bâtir une équipe de France bis, quoi, au Real Madrid. On a parlé aussi de Delert, le défenseur de l'Ajax Amsterdam, convoité aussi par le Barça, tiens.
Ben oui, parce que Varane, il y a un article d'un reporter de l'équipe de France, de l'équipe, il y a 15 jours, Hugo Delhomme, qui parlait des états d'âme de Raphaël Varane, qui sont assez fréquentes. Hein. Varane estime qu'il a besoin de nouveaux challenges, qu'il ne se sent peut-être pas forcément assez valorisé au Real Madrid. Bon, c'est pas le moment d'avoir des états d'âme au Real Madrid. Là, tout est remis à plat. Je connais mon Zizou. Ou tu es dans le projet, ou tu es à fond, ou tu es pas. Donc il faudra rapidement que Varane montre qu'il a 100% envie de rester au Real Madrid, parce qu'il ne faudra pas avoir des états d'âme jusqu'au 31 août à minuit moins le quart. Voilà, donc il y a l'arrivée déjà qui est annoncée d'Eder Militao, hein, très bon défenseur central, voire latéral brésilien de Porto.
Porto, oui.
Mais voilà, De Ligt plaît énormément, hein, on s'en souvient ici à Madrid, puisqu'il avait été le capitaine de l'Ajax et qui avait éliminé le Real en huitième de finale retour de la Ligue des Champions il y a quelques semaines.
Fred, permets-moi d'accueillir aussi Simone Rovera, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Et Simone, on va bien sûr évoquer avec toi la Serie A italienne en tout début de seconde partie de l'avant-match. Je m'en excuse. Simone, ciao.
Ciao, buonasera, bonsoir. Et si je peux ajouter une petite info à ce que dit Fred, moi je sais que si Raphaël Varane devrait ou jamais doit quitter le Real Madrid, il y a une solution italienne qu'il apprécierait beaucoup, qui c'est celle d'aller à la Juve.
Aller à la Juve, chez la meilleure charnière centrale au monde, il risque de se retrouver au Qatar, comme un certain Mehdi Benatia.
La Juve doit préparer son avenir. Et Chiellini, il va pour les 34 ans, donc... Attention.
À voir la performance de Chiellini face à l'Atlético Madrid. Franchement, il en a encore sous le capot celui-là. Fred, rapidement, il y a ce derby catalan prévu ce week-end entre le leader, le FC Barcelone, qui accueille bien sûr l'autre formation catalane, l'Espagnol. Ça se passe samedi. Voilà, 10 matchs du terme. C'est la voie royale pour le Barça qui récupère ses deux stars, bien sûr, Suarez et Messi. Fred, merci beaucoup.
Merci les amis, à très vite.
On va bien sûr se retrouver tous ensemble lundi prochain. Simone, reste avec nous, c'est une promesse, commencer la deuxième partie de l'avant-match avec toi. On se retrouve tout à l'heure les amis. Bienvenue donc les amis dans cette seconde partie de l'avant-match. J'accueille Hervé Penaud. Salut Hervé.
Bonjour à vous les amis, quel plaisir d'être en votre compagnie.
Plaisir partagé, même si on va commencer par Simone Rovera qu'on remercie pour sa patience. Simone Rovera, d'abord cette information, l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, qui confirme que Cristiano Ronaldo pourrait manquer le quart de finale face à l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Simone.
Mais oui, c'était un discours, on peut dire, très politique, celui de Massimiliano Allegri, qui est un peu... voulu démentir plusieurs rumeurs qui sont sorties dans les dernières heures, comme le fait que Cristiano s'était fait soigner par un médecin privé à Barcelone, comme le fait que il y a quelques semaines, il y a eu des disputes entre les présidents Agnelli. Massimiliano Allegri a dit aujourd'hui, on a des matchs importants à jouer et on ne va pas prendre des risques pour la fin de la saison. C'est-à-dire, Cristiano Ronaldo va jouer quand il sera 100% disponible. La question, donc, ça change. Est-ce que Cristiano va être 100% disponible pour l'Ajax? C'est pas simple, même si les Portugais, on sait qu'il va tout faire pour être présent. Mais la Juve, je pense, sans mépriser l'adversaire, mais en connaissant quelles sont les forces de cette équipe, même le président Agnelli l'a dit ce matin, on a 25 joueurs de très grande qualité, donc on va pas prendre des risques. Tous ces messages du président, de l'entraîneur, font penser que oui, Cristiano pourrait manquer le match aller pour être sûr d'être là au match retour, et bien sûr dans la tête de la Juve, même s'ils ne le disent pas, dans les demi-finales.
Voilà, donc demi-finale en vue, en tout cas objectif demi-finale, voire même plus hein, pour la Juve. On parle bien sûr du forfait de Cristiano Ronaldo. Du côté de l'Inter, on salue peut-être le retour un peu forcé d'Icardi, qui n'a plus joué depuis des mois maintenant avec l'Inter, l'ancien capitaine qui avait prétexté une blessure non confirmée par son club.
Voilà, depuis le 14 février, Mauro Icardi ne fait plus partie, on peut dire, des entraînements de l'Inter. Il s'est entraîné à part, il s'est fait soigner. Aujourd'hui, la situation est changée, est différente, parce que Lautaro Martinez revient de sa sélection argentine avec une blessure qui le fera rester dehors du terrain pour 15 jours au moins. Donc, Mauro Icardi, qui a recommencé à s'entraîner avec les groupes pendant la trêve, donc quand il n'y avait pas tous les joueurs, surtout il n'y avait pas les Croates avec qui les rapports sont vraiment pas bons, il devrait être bien sûr dans les groupes pour jouer face à la Lazio dimanche soir, mais attention, parce qu'il pourrait même être titulaire pour son grand retour. Il y a un seul point d'interrogation, comment va être accueilli à San Siro, qui a décidé de se mettre un peu d'un côté du club contre les joueurs. Donc, les mettre titulaires dans un match si délicat, parce que c'est une confrontation directe pour la Ligue des Champions, ça pose quelques questions dans la tête de Luciano Spalletti, aussi parce que Mauro Icardi n'a pas dit un mot, ne s'est pas jamais excusé avec ses coéquipiers depuis 3 jours, depuis qu'il a repris l'entraînement.
Voilà, donc pour ce retour en fanfare, on va dire, on ne sait pas encore, hein, de Mauro Icardi. Du côté de l'Italie, il y a aussi maintenant ces interrogations au niveau, bien sûr, du stade de San Siro. Il y a cette polémique, on est en train de... Les deux clubs, l'Inter et le Milan AC, vont mettre la main à la pâte, à la pasta, pour construire un nouveau stade. Est-ce que San Siro reste? Est-ce qu'on va le détruire et mettre la nouvelle enceinte à sa place?
Je pense que malheureusement, pour les amoureux du beau football et de l'histoire, San Siro devrait fermer ses rideaux et on devrait voir bâtir un nouveau stade juste à côté. Et c'est triste pour les amoureux, mais l'Inter et le Milan, aujourd'hui, sont dans une obligation d'avoir de revenus majeurs. Imaginez, Milan-Inter gagne environ 20 millions d'euros par an avec San Siro. La Juve, avec une stade qui a 45 000 places, donc 35 000 places en moins, ne gagne plus que les doubles, 45. Et des clubs comme Real et Bayern ou Barcelone ou Manchester gagnent plus que 100 millions par an. Donc il y a un gap de 80 millions par an que Milan-Inter ne peut pas avoir parce que San Siro n'offre pas certaines garanties de modernité et donc on ne peut pas mettre certains prix dans certaines loges. Voilà, il manque beaucoup de choses à San Siro pour avoir des ressources importantes. Milan Inter veut arriver dans l'avenir. Il y a une déclaration très importante aujourd'hui du président du Milan Scaroni qui a dit oui, on pourrait quitter San Siro, et du directeur général de l'Inter Marotta qui a dit c'est beau d'avoir des stades mythiques, mais après, il faut avoir des équipes et jouer des compétitions mythiques. Si on ne va pas dans l'avenir, on ne pourra pas faire certaines compétitions, on ne pourra pas avoir certains joueurs pour faire venir les gens au stade. Ça sent vraiment le mot de la fin pour San Siro, mais bien sûr, ce n'est pas pour l'instant. On part bien sûr de 4-5 ans avant d'avoir un nouveau stade à Milan.
Bien sûr. Fred était avec nous lors de la première partie. Je pense tout le temps à lui. Soyez pas jaloux, les enfants. Je voulais aussi parler avec toi, bien entendu, Simone, des affiches du week-end, l'Inter Lazio et surtout Roma contre Naples.
Roma-Naples, c'est un match avec deux grands messieurs de football sur les bancs de touche. C'est presque aujourd'hui plus les entraîneurs que les joueurs, parce que les deux équipes sont en train de vivre des moments bons, mais pas extraordinaires. Donc, Carlo Ancelotti face à Claudio Ranieri, c'est deux anciens grands entraîneurs qui ont, des anciens, Carlo Ancelotti encore beaucoup actuel, mais des entraîneurs qui ont fait connaître le footballien dans toute l'Europe. Il y a un souci pour Naples qui perd Insigne. La Roma revient avec beaucoup de soucis parce qu'il y a eu cette défaite à Ferrara face à la Spal avant la trêve. Il y avait eu la défaite dans les derbies, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions. Et surtout, il y a eu une grosse bagarre dans les vestiaires sur le dernier match à Ferrara entre Dzeko et Sharawi. Donc, rien va bien à la Roma. Naples arrive avec les morales au 100%, avec des joueurs qui sont en pleine forme. On devrait voir un peu de rotation. Mais c'est vrai, comme j'ai déjà dit, que Naples met son objectif en Europe, donc la Ligue Europa. On ne sait pas si pour ces matchs, on aura une équipe vraiment titulaire. Donc, il y aura quand même un très beau équilibre. Et c'est un match déterminant pour la Roma, parce que perdre, ça voudrait dire risquer de se faire éloigner encore plus par Milan et Inter dans la lutte pour la Ligue des Champions.
Merci beaucoup, mon ami Simone Rovera. On va te retrouver, bien entendu, à partir de lundi. Et je serai là pour qu'on fasse un peu le bilan du week-end. En Italie, parlons maintenant du côté du championnat de France, du côté de la France plutôt, puisque nous avons un rendez-vous important, un trophée qui sera décerné ce week-end, et le PSG n'est pas concerné pour une fois. Strasbourg face à Guingamp, le bourreau justement du quintuple tenant du titre. On joue ce week-end la finale de la Ligue, bien sûr, avec cette opposition entre ces deux formations. Un trophée qui offrira en prime, bien sûr, un accès à la Ligue Europa. Hervé.
Eh bien oui, enfin, on ne voit plus le PSG dans une finale. Parce qu'on s'était habitué. Moi, chaque fois qu'il y avait une finale, je voyais des joueurs du PSG. Eh bien non. Eh bien non, pour la première fois. Nous nous retrouvons avec des équipes, entre guillemets, moins ambitieuse, hein, parce que Guingamp, la seule ambition, c'est de se sauver. Strasbourg fait une très très belle saison et donc est placé très bien dans le championnat, alors qu'on s'attendait aussi à une équipe qui aurait des difficultés. Donc voilà, ça change un petit peu, ça donne un petit peu de fraîcheur à cette Coupe de la Ligue. Ça permet d'avoir un autre spectacle. Je suis persuadé qu'à Lille, il y aura beaucoup de monde demain. Le stade sera plein, il y aura 45 000 spectateurs. La Bretagne va venir jusqu'à Lille, ça c'est une certitude. Et de même pour Strasbourg, l'Est aussi va se donner rendez-vous là-bas. Et on se retrouve avec une finale inédite et puis très intrigante, parce que c'est vrai que quand le Paris Saint-Germain arrive en finale, on avait la sensation, si vous voulez, qu'il y avait déjà un vainqueur d'assuré. Alors que là, même si Guingamp ne montre pas grand-chose cette année, ils ont changé d'entraîneur, Jocelyn Gourvennec qui est arrivé, mais ils ont quand même fait l'exploit de l'année, encore plus que Manchester United. Vous imaginez Guingamp de s'imposer au Parc des Princes, après avoir été mené d'ailleurs 1-0 sur un pénalty, d'avoir marqué deux pénaltys. Donc c'est une finale très indécise, très intéressante, avec d'un côté Strasbourg, un entraîneur très charismatique, un peu bourru, qui parle vrai, qui parle fort, enfin fort, disons qu'il dit souvent ce qu'il a sur le cœur, et c'est ça en fait un personnage vraiment sympathique de notre championnat de France. Et puis de l'autre, vous avez ce Guingamp qui rêve surtout de ne pas descendre et qui espère réussir le coup de décrocher cette Coupe de la Ligue. Et ça rappellera Lorient qui avait gagné une coupe une année en descendant dans la foulée. Alors faudrait peut-être pas ça, vaut mieux parfois rester en Ligue 1, pas gagner une coupe, mais là un beau trophée, ça reste quand même pour ces deux équipes un truc majeur pour l'histoire du club.
Alors en première partie, tu n'étais pas avec nous, mon cher Hervé, mais on a beaucoup parlé de ton championnat et surtout de ton Paris Saint-Germain, puisque au Real Madrid, on est en train de viser la grande pépite, la star du football français parisien aujourd'hui, la grande star du football mondial dans quelques années, Kylian Mbappé. Comment on gère ces attaques madrilènes du côté du PSG? On parle aussi de Neymar.
Pour être honnête avec vous, j'y crois pas du tout. Sur cette année, hein, cette année en tout cas. Parce que Kylian Mbappé déjà
Fred
a envie un peu de s'installer au Paris Saint-Germain. Oui, je sais, j'ai entendu ses arguments. Mais bien sûr, lui, il vend le projet Zidane, il vend le projet Real. Et on sait aussi que Kylian Mbappé est un fanatique du Real Madrid, hein, puisqu'il était fan de Cristiano Ronaldo, il avait tous ses posters, donc le Real, pour lui, ça pourrait le bousculer. Mais il a toujours dit, j'arriverai là-bas pour être un titulaire indiscutable, en étant sûr de moi. Là, peut-être qu'il lui manque encore un ou deux ans. Alors, ce que je peux vous dire, de choses absolument certaines, c'est qu'aujourd'hui,
au moment où on parle, il n'a pas spécialement envie de quitter le Paris Saint-Germain. Et vous savez, parce que dans un transfert, il y a quand même trois choses.
Il l'a dit. Il l'a dit juste après l'élimination face à Manchester United. Et on parle aussi, Hervé, de bien sûr de la prolongation de contrat, du salaire, de la proposition de doubler son salaire, de blinder un peu son contrat pour éviter que le Real le pique.
En dehors de ça, je peux vous dire qu'en ce moment, je connais un petit peu l'entourage. Pour l'instant, il n'est pas question, si vous voulez, que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. C'est pas l'idée de son profil de carrière. Lui, tout a été calculé.
Mais pourquoi on sort pas, on le dit pas, Hervé, et qu'on arrête tout ça?
Mais après, ça fait partie du jeu médiatique. C'est comme Neymar, ça permet après, quand il y a des négociations, de gagner un petit peu plus d'argent. Mais de toute façon, il y a un autre élément qui est capital dans cette histoire, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres. Si vous avez l'émir du Qatar qui a décidé que Neymar et Mbappé... Alors, attention, c'est compliqué parce que vous avez l'histoire du fair play financier.
Justement, c'est ce que je voulais te dire.
Voilà. Ça, c'est un vrai souci. Mais s'il a décidé qu'il gardait les deux joueurs, est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde, mais une seule seconde, qu'un club, qu'un joueur, qu'un entraîneur, qu'un autre pays puisse mettre à mal l'émir du Qatar? Là, ça paraît absolument invraisemblable. Quand vous pensez que Hatem Ben Arfa, bon, même s'il n'était pas en odeur de sainteté auprès de son entraîneur, mais il n'empêche que ce qui avait tout changé, c'est qu'on avait estimé qu'il s'était adressé à l'émir en lui demandant son numéro de téléphone, sur une boutade d'ailleurs, mais ça avait tellement choqué en interne les dirigeants du PSG, enfin ceux de la branche qatarienne, hein, pas du côté français, que évidemment, d'un seul coup, il n'a plus mis un pied dans l'équipe. C'était terminé, il n'en était plus question.
Donc
regardez
pour toi...
l'histoire Rabiot. Rabiot, il était décidé qu'il ne jouerait plus. Tuchel a dit qu'il voulait qu'il joue. À un moment, il a quand même fait des déclarations en janvier en disant qu'il aurait peut-être besoin de lui. Il n'a plus mis les pieds au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si à Mbappé, on lui dit « cette année, il n'est pas question que tu partes », je ne vois pas comment Mbappé pourrait rentrer dans un bras de fer avec le Qatar. Parce que là, vous ne parlez pas d'un club, hein. Vous parlez d'un pays.
Et
imaginez l'image que ça donnerait.
Mais il y a aussi le fameux, mon cher Hervé, donc, fair play financier qui pourrait aussi, des fois... laisser le PSG investir autant d'argent qu'il veut. Merci beaucoup. On aura, de toute façon, franchement, on aura l'occasion de revenir sur ce dossier. Il reste quelques petites minutes. On va prendre la direction de la Première Ligue anglaise avec, bien sûr, cette lutte et cette course pour le titre avec Liverpool qui affronte Tottenham ce week-end. C'est un match d'une importance capital. Bien sûr, on sait pour le Liverpool, mais pas que. J'accueille d'abord notre spécialiste du football anglais, Aurélien de Vernois. Salut Aurélien.
Salut Jalal, bonjour à tous.
Donc Liverpool-Tottenham, un match à ne pas perdre et surtout un match à gagner pour les uns et les autres.
Alors oui, c'est vraiment le match à ne pas perdre. Tu as raison Jalal de dire ça, parce que une défaite pour l'une ou l'autre des deux équipes serait quand même... très dommageable dans l'optique de la fin de championnat, parce qu'il va rester à Liverpool après cette rencontre 6 matchs à jouer et à Tottenham 7, parce que Liverpool a un match de plus par rapport à ses poursuivants. Que ce soit pour Liverpool, qui est vraiment dans un mano à mano terrible avec Manchester City pour le titre en Première Ligue, ou que ce soit pour Tottenham, qui a vu toute son avance pour les places en Ligue des Champions fondre ces dernières semaines, et donc aujourd'hui n'a plus qu'un point d'avance sur Arsenal, qui est quatrième, et 3 et 4 sur Manchester United et Chelsea. Voilà, une défaite serait vraiment très malvenue. Après, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que c'est quand même pour Liverpool que l'enjeu est le plus important, parce que si Liverpool gagne cette rencontre, qui est quand même l'un des derniers gros chocs de cette fin de saison pour les joueurs de Jurgen Klopp en Première Ligue, derrière, ça sentira quand même un petit peu meilleur, et surtout, ça mettra une très grosse pression sur Manchester City. Tottenham, on va dire, a encore peut-être une défaite, ou en tout cas un droit à l'erreur pour les places européennes ou en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ça va être très 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 serré, je pense, et il y a un enjeu énorme dans ce match qui va jouer donc dimanche après-midi.
Voilà, enjeu énorme pour Liverpool contre bien sûr Tottenham. Quelles sont bien entendu les autres affiches qu'on devrait suivre ce week-end rapidement en Angleterre?
Alors rapidement, une affiche qui va être intéressante, ça va être Manchester United contre Watford. Watford qui est deuxième au classement. Alors pourquoi je vous dis deuxième au classement? C'est deuxième au classement de l'autre première ligue, si vous voulez, celle qui commence à partir de la septième place. Parce que les six premiers, on sait qui c'est, ça change pas d'année en année ou quasiment. En revanche, à partir de la septième place, il y a une sacrée bataille. Alors c'est pas vraiment une bataille pour les places européennes, puisque c'est que les six premières places. Mais en tout cas, c'est la place de champion derrière le Big Six qui se joue. Et Watford, dans cette bataille-là, est plutôt bien placé. Et c'est une équipe qui aime bien jouer contre les gros, qui embête souvent les membres du Big Six de la Première Ligue. Et donc, du coup, il va falloir que Manchester United se méfie un peu. Alors, Manchester United arrive avec quelques certitudes, et notamment avec son nouvel entraîneur officiellement, puisque Solskjaer va signer un contrat de 3 ans à la tête de Manchester United. Il a convaincu les dirigeants du club avec à la clé un salaire plutôt sympathique, parce qu'il va toucher à peu près 8 millions d'euros par an, donc c'est plutôt quand même confortable. Donc voilà, donc Manchester United qui est toujours à la bataille pour une place de qualification directe pour la Ligue des Champions en Première Ligue, puisqu'ils peuvent quand même gagner la Ligue des Champions directement. Voilà, il va falloir être sérieux contre Watford, qui est une équipe intéressante.
Voilà, donc Solskjaer qui va signer un contrat de 3 ans et d'une pierre deux coups l'équipe de Manchester United, parce qu'elle fait signer bien sûr son super ancien super sub, et aussi elle déstabilise un petit peu le voisin Liverpool, puisque eh bien Solskjaer va récupérer sa maison qu'il loue actuellement à Van Dijk, le défenseur néerlandais de l'équipe de Liverpool. Merci beaucoup Aurélien. Merci à Hervé aussi, à toute l'équipe. C'est la fin de cette édition de l'avant-match. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, lundi à la même heure pour l'après-match. Ciao, ciao.
Kiss your neck with no emotion when she's me.